Bonjour à toutes et tous, il est midi et quart pétante, vous écoutez Radio BLV sur 93.6 et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui, c'est Kat, Fatima et Karina. Karina au four et au moulin, c'est-à-dire que telle la déesse Kali aux multiples bras, elle anime cette locale avec nous et assure la technique. Bonjour Karina, ô déesse qui détruit le mal sous toutes ses formes et nous libère de la peur de la destruction. Comment ça va ?
Oh ben là, ça va à merveille après une telle introduction. Merci Kat, comment ça va toi ?
Très bien, surtout que toi, ô Fatima, notre ange tombé du ciel directement au 18 rue Gay-Lussac, tu es en service civique à Radio BLV et tu nous partageras quelques infos que tu as rédigées, le sommet de l'iceberg du travail que tu fais en coulisses pour nous aider à ne manquer aucune actu. Wow. Bonjour Fatima.
Merci beaucoup pour cette intro.
Alors, Karina, au sommet de cette locale du jeudi 20 octobre.
Ah, mystère. Au sommaire, on va parler d'abord avec Patrick Giraud de Roman International qui est au téléphone avec nous pour parler du Festival des Solidarités, le fameux Festisol. Et ensuite, nous échangerons avec Christophe Gerland, œnologue et microbiologiste, pour le Salon des Vins et Cépages oubliés de Chabeuil ce week-end. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et comme d'habitude, des infos et des brèves locales.
Il y a plus de 20 ans que le Festival des Solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres. Chaque année, en novembre, plein de structures se réunissent, des associations, des collectivités, des établissements scolaires, des structures socio-culturelles, des acteurs d'économie sociale, des groupes de citoyens, de citoyennes, pour organiser plein d'animations, plus de 4400 animations conviviales et engagées un peu partout, pourquoi ? Pour donner aux citoyens et citoyennes de tout âge l'envie d'agir pour un monde juste, solidaire et durable. L'édition 2022, elle va se dérouler de vendredi 18 novembre au dimanche 4 décembre, donc il y a beaucoup de choses. Des animations auront donc lieu partout en France, mais aussi dans d'autres pays. Bénin, Burkina Faso, Cameroun, moi, j'en passe. Et le Festisol est co-organisé ici par Roman International. Et nous avons la chance d'avoir Patrick Giraud au téléphone. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Comment ça va ?
Bah, très bien, bien occupé par l'organisation de ce festival, effectivement, avec l'ensemble des partenaires et puis bon, bah, par nos activités aussi habituelles, forcément.
En plein dans les préparatifs alors ?
En plein dans les préparatifs, effectivement. Oui, tout à fait. On a un regroupement tout à l'heure. On a les programmes qui sortent, donc on va les distribuer et puis faire tout ce travail de communication autour de l'ensemble des animations qui vont être proposées donc sur Roman et autour de Roman.
Et le Festisol, pour les personnes qui n'y sont jamais allées, est-ce que tu pourrais être nos yeux et nous décrire un peu à quoi ça ressemble ?
Alors, pour ceux qui ont connu, vous parliez là de 20 ans, effectivement, oui. Avant ça s'appelait la SSI, la Semaine de Solidarité Internationale, qui a évolué, qui est donc devenue, il y a quelques années, le Festisol, Festival des Solidarités. L'idée, en tout cas, c'est de mettre en avant des actions autour de la citoyenneté, de la solidarité, du développement durable, en fonction, en tout cas, aussi de ce que chacun peut apporter par rapport aux thématiques qu'il développe tout au cours de l'année. Donc c'est un peu un moment phare et on met en lumière justement ce que peuvent faire dans le cadre de ce Festisol, ce que font les partenaires donc au cours de l'année et à ce moment-là où ils vont développer des activités, des animations bien particulières liées au au festival, en essayant de faire des croisements avec, justement, c'est un moment aussi où on fait mieux connaissance aussi les uns avec les autres, et on n'est pas que sur son, je dirais, sur son animation, mais aussi on va voir les autres, on partage, on fait des croisements entre les différents publics qui vont être plutôt parfois en direction, je dirais, de telle cause, et puis leur permettre de effectivement découvrir qu'il y a d'autres choses qui se font à côté sur le thème de la solidarité toujours.
C'est un peu la convergence des solidarités quelque part.
Exactement. Voilà, pendant 15 jours, alors même 3 semaines, puisque dans le cadre donc du Festival des Solidarités sur Romand, on commence dès le dimanche 13, donc un peu en avant, je dirais, du démarrage officiel avec la journée organisée par la SPS, Association France Palestine Solidarité, donc une journée qui va se passer à la salle des fêtes de Mours-Sainte-Eusèbe. Et donc là, à partir de 10h30, toute la journée, il y aura donc conférences et puis voilà, des projections, des débats. Donc il va y avoir pas mal de choses autour donc de la question de la Palestine.
À noter alors. Et voilà. Cette édition 2022, c'est quoi sa particularité ?
Alors, on est un peu en reprise. Déjà l'année dernière, on avait commencé à reprendre un peu donc des contacts. Là, on est dans la reprise véritablement où chacun a pu commencer à se réinvestir pleinement. Dans l'idée, en tout cas, sur cette année, ça a été beaucoup plus d'essayer de faire ressurgir l'ensemble des actions menées par les associations avec donc des expositions par la LICRA, une pièce de théâtre par l'association La Maison du Maghreb et de la Méditerranée, par exemple, une pièce donc, qui va se passer qui s'appelle Ta, Le Monde ne voulait pas de moi, avec des moments de repas partagés, avec des moments de conférences avec l'Université populaire de Romans, où on aura deux conférences, une sur vieillir en habitat participatif et solidaire, et puis une autre sur la laïcité. Voilà. Peut-être pas donner forcément toutes les jours et heures. Donc l'idée, c'est d'aller en tout cas sur le site du Festival des Solidarités, le site national, et vous tapez Romand, et en fait, après, vous avez le déroulé de l'ensemble de toutes les animations en fait, qui vont avoir lieu pendant presque 3 semaines donc, de ce festival.
Il y a du choix. Donc le site, c'est festivaldessolidarités.org, le site au national, et on s'aperçoit que la Drôme, enfin on le sait déjà, hein, mais que la Drôme quand même a énormément de structures de solidarité, plein d'associations, plein de beaux acteurs et actrices.
Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile pour chacun de se mobiliser à ce moment-là sur la fin d'année où tout le monde est bien occupé. Mais je trouve qu'en tout cas on ressent un engouement sur cette fin d'année malgré tout. On sent que la crise est quand même maintenant derrière nous et qu'il y a une vraie volonté. On sent aussi le retour des bénévoles qui ont envie de s'investir et de participer.
Ah, ça fait plaisir.
Non, c'est vrai, ça nous fait plaisir à nous aussi, dans les associations, de sentir ce vent de renouveau et de reprise beaucoup plus positif. Même si l'année dernière, on avait essayé de reprendre, mais c'est vrai que c'était timide. On sent en tout cas la différence avec l'année dernière, on sent qu'il y a vraiment de l'envie de vouloir montrer, de vouloir aller vers les autres, de sortir. On avait pendant tout un temps envisagé des choses en distanciel, en visio, etc. Et aujourd'hui, tout se fait, en tout cas en présentiel, avec cette volonté de vouloir accueillir les gens sur place. On a la maison de quartier, par exemple, qui organise toute une journée autour de la question de la sécurité sociale de l'alimentation sur le territoire de Romans-Valence. Et ils font donc autour de leur projet des paniers du quartier, paniers solidaires. Ils font toute une intervention à ce niveau-là, comme l'association Artisans du Monde, qui va avoir une porte ouverte et qui va donc proposer des produits, des dégustations, etc., pour permettre effectivement aux gens de venir les rencontrer. C'est vraiment ça l'idée aussi, c'est on est là, n'hésitez pas, et venez découvrir aussi ce que l'on fait, voir ce qu'on fait à ce moment-là, mais aussi tout au long de l'année, je dirais.
Tout est gratuit ?
Alors, tout n'est pas forcément gratuit, ça dépend un petit peu des interventions. Je ne sais pas si je liste, mais là, effectivement, sur...
Globalement...
voilà, globalement, en tout cas, on a tenté d'aller vers la gratuité, mais il y a des choses, effectivement, bah, qui sont quand même payantes, parce que ça implique des locations de salles, ça implique des frais à côté. Donc, effectivement, là, quand on... Donc, on a notamment une soirée avec le Ciné Lumière et puis à le CCF des Terres Solidaires, donc un roman international est sur cette soirée. Donc, soirée où, donc on aura une présentation d'un film qui sera présenté sur les questions autour de la solidarité internationale. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette solidarité internationale? Comment le volontariat s'exprime? Et donc là, cette soirée sera effectivement payante. Ça sera en lien avec le cinéma. Et on aura donc le film C'est la cité de la joie, qui a 30 ans cette année. Ouais. Certains peut-être l'ont vu. Et qui était, en tout cas, de façon très romancée, en tout cas, un peu précurseur de d'une forme de solidarité dans des quartiers compliqués, pauvres, très pauvres, puisque ça se passe du côté de l'Inde à Calcutta. Mm. Donc voilà, et donc là, on a un tarif de 7 euros, mais qui correspond en fait à une place de cinéma, avec un temps de débat d'échange après sur ces questions de volontariat, et un temps aussi autour de d'un verre à partager, quoi.
Et votre rôle roman international dans tout ça, dans ce festival, c'est lequel?
Alors, nous, notre rôle roman international, c'est de coordonner, parce que c'est vrai qu'il y a partenaire, de savoir qui fait quoi quand, comment est-ce qu'on on partage l'ensemble des animations, d'assurer donc le côté animation et communication, donc information sur le festival. Donc tout ça, c'est vrai que ça demande du temps, pour le coup. Et de faire du lien. Voilà, coordination, c'est vraiment faire du lien avec les uns et les autres.
Et c'est quoi, toi, ton coup de cœur? Si y a vraiment un événement autour du Festisol qui te tient particulièrement à cœur, ce serait lequel?
Oh, c'est difficile, ça. non, je trouve que tout est à aller voir, à découvrir. Donc nous, on y est impliqués sur deux aspects, soit le ciné. J'aurais envie de mentionner tout le monde, parce qu'on est 10 partenaires. J'ai pas mentionné par exemple Proxité aussi, avec lesquels on fait une soirée, parce que nous, on a un accueil en fait de 10 jeunes volontaires internationaux européens qui viennent pendant cette période, et on va leur permettre de rencontrer les jeunes qui sont accompagnés par Proxité. Donc on va travailler justement sur les questions autour de la solidarité dans cette soirée. Mais coup de cœur, véritablement, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, important, c'est que la dizaine d'associations, on est tous partie prenante. Il y a aussi la STIR donc, hein, qui va faire des interventions auprès des jeunes en milieu scolaire au collège La Passa, pour essayer de vraiment d'arriver à avoir pu un peu dire en tout cas ce que chacun faisait. Mais faut, en tout cas, je pense que le coup de cœur, c'est plus de se dire qu'il y a un véritable engouement de l'ensemble des associations parties prenantes, et que c'est ça qui me semble vraiment intéressant. Et j'ai envie de dire, venez nous rencontrer, venez voir ce qui est proposé par les uns et les autres. Ça vous permettra à la fois de découvrir les associations, à la fois de se questionner sur les thématiques que l'on va aborder, puisque l'idée, c'est vraiment aussi de faire en sorte que les gens aient envie de s'engager à terme et d'aller défendre telle ou telle cause, ou d'aller en parler autour d'eux, de se sentir mieux informés par des gens qui connaissent les sujets qu'ils portent tout au long de l'année. Donc voilà, dans l'idée, en tout cas, c'est vraiment ça l'objet de ce festival.
Eh bien, parfait. On peut conclure sur ce message à nos auditeurs et auditrices. Venez voir de vous-même. Il y a plein de choses, effectivement, pendant tout le mois de novembre. Si vous voulez en savoir plus dans le détail avec les horaires, les tarifs et les descriptions, vous pouvez aller donc sur festivaldessolidarités.org. Et est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, une info pratique particulière ?
Non. Sinon, effectivement, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de s'inscrire forcément. Donc, vous venir, vous mettez dans vos tablettes, dans vos agendas, de pouvoir être présent à tel ou tel moment. On vous accueillera vraiment avec grand plaisir, quoi. Voilà.
Et bien, merci beaucoup, Patrick.
Merci également à vous.
Et bon festival.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Ce soir, musique de ballet à la salle des fêtes de Beaumont-les-Valences à 20h30 par l'ensemble orchestral Confluence sous la direction de Maya Paille. Au menu, le lac des cygnes et la belle au bois dormant. D'autres représentations auront lieu ce vendredi à Huppy et ce samedi à l'église de Saint-Maman. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, l'occasion de les initier. Et ça va de 10 à 15 euros pour les plus grands.
De la danse. Et le festi...
Non, de la musique.
De la musique, pardon, c'est le côté ballet qui m'a induite en erreur, vient de le préciser. Le festival de la CIMADE Migre en Scène a commencé à Tournon et cette année, il est consacré au thème de la liberté. Liberté de circuler, de s'aimer, de s'installer, liberté d'affirmer une identité plurielle, liberté de s'associer, d'imaginer ensemble. Des événements vont donc être organisés tout au long du mois. Ce week-end, vous avez par exemple un cercle de silence pour marquer votre solidarité. Ce sera samedi, donc le 12 novembre, à 10h, devant l'église Saint-Julien. Je pense que ça peut faire du bien de se retrouver dans le silence. C'est un événement original, j'en avais pas encore annoncé.
Dont on ne prendra pas le son, donc.
On peut prendre le son, mais on risque de perdre quelques auditeurs au passage. C'est un silence entre 30 secondes et 30 minutes, c'est un silence variable. Et sinon, lundi, par exemple, aussi, lundi, donc ce sera le 14 novembre, vous aurez le grand moment d'ouverture du festival. Ce sera au Point commun à Tournon, donc à 18h, et ce sera suivi d'une projection du film La Traversée à 20h au cinéma de Tournon. Ça continue bien sûr tout le mois et même jusqu'au 14 décembre. Vous pouvez retrouver le détail de la programmation sur migrantscène.org.
À la Fontaine Minérale, bar-restaurant sur Cré, a lieu l'impro total Molière dans tous ses états jusqu'à ce dimanche. Il vous reste 3 jours pour profiter des équipes internationales qui organisent des stages, des ateliers, du théâtre et des matchs d'improvisation. Par exemple, la pièce de théâtre de Dom Juan de Molière est revisitée par les Tréteaux de Fenouillet à l'occasion des 400 ans de Molière et ce spectacle sera joué demain à 18h et ce dimanche à 16h pour une durée de 1h45 au théâtre Fenouillet qui est sur Saint-Gervais-sur-Roubion. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site lafontaineminérale.fr. Et si vous aimez l'impro, la compagnie Les Excités, à qui nous faisons un petit coucou, elle anime aussi l'émission Studio Impro chez nous, pour notre plus grand plaisir déjà, organise un match d'improvisation en compagnie des colocs qui nous viennent de Grenoble. Le match a lieu demain à 20h au bar à jeu Le Fou de la Dame, situé à Romans-sur-Isère. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook qui est la compagnie Les Excités.
Merci Fatima. Dom Juan, c'est très joli.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors tu es œnologue et microbiologiste, tu fais partie de l'association Terre de Treille, quel joli nom, et tu viens nous parler de l'alléchant salon des vins et cépages oubliés, qui se tiendra ce week-end, samedi et dimanche à Chabeuil. Alors je précise tout de suite qu'on y sera en direct de 10h à 11h et de 13h à 15h, donc Radio BLV, avec des portraits de vignerons et de vigneronnes, parce que enfin, maintenant il y a des vigneronnes, ce qui me met en joie. On va en reparler tout de suite, parce que vous avez une invitée sur le salon qui est à la fois vigneronne et écrivaine. Mais peut-être pour mettre tout le monde à égalité à ce sujet, tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est un cépage oublié, peut-être même ce qu'est un cépage, parce que tout le monde n'est pas amateur ou amatrice de vin.
Tout à fait. Donc, pour élaborer des vins, on utilise de la vigne qui s'appelle Vitis vinifera. Et il y a différentes variétés que l'on appelle cépages.
Comme
par exemple, dans la région, oui, tout à fait.
D'accord.
Dans la région, nous avons en rouge la Syrah. Et en blanc, on a le Viognier pour les Condrieux ou alors la Marsanne et le Roussanne pour les Saint-Péret, Croz-Hermitage blanc, Hermitage blanc. Vous voyez, dans les grands cépages connus, on a aussi le chardonnay, qui est très présent en Bourgogne ou en Champagne, ou le Pinot Noir, ou également les cépages bordelais, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
Alors, tout cela, ils sont connus, ce ne sont pas les oubliés. Parce que,
non.
Enfin, je dis ça parce que je les connais et que je ne suis pas œnologue.
Tout à fait. Alors, ils ont été développés, produits à large échelle et même dans le monde entier, hein, puisque nous avons pas mal exporté notre savoir-faire aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud. Et si vous voulez, il y a eu dans l'histoire de l'élaboration des vins et de la viticulture différentes époques où on a eu un peu des attaques de certains champignons, de certains insectes comme le phylloxéra, qui a obligé à changer un petit peu de cépage et d'aller soit sur des croisements qu'on appelait hybrides, soit de relancer des cépages qui étaient quasi abandonnés. Et c'est cela qu'on appelle les cépages oubliés. Donc effectivement, nous avons 14 vignerons qui ont pris cette stratégie et cette philosophie d'utiliser ces cépages anciens qui, comme ils sont peu cultivés, sont plus résistants aux maladies, comme la pourriture grise, le mildiou, l'oïdium, le botrytis, et qui également ont tendance à résister un petit peu mieux à la sécheresse et aux fortes températures, à mûrir plus lentement, ce qui fait qu'on a derrière des raisins un petit peu moins sucrés, donc des vins avec un petit peu moins d'alcool, ce qui est
c'est pas plus
meilleur
mal
à la santé. Voilà.
D'accord, mais alors du coup, finalement, est-ce que tu es en train de me dire qu'en matière de vigne, il vaut mieux être original dans les vins dans les cépages qu'on choisit, ce qui fait que s'ils se développent beaucoup, parce que question sécheresse et canicule, si c'est des cépages qui résistent mieux, ils vont énormément être plantés, forcément.
Oui, alors pour l'instant, disons que c'est une ultra-minorité, hein, ces vignerons qui utilisent ces cépages. Et ce sont aussi des vignerons qui... pour beaucoup, vont aller planter ces vignes dans des endroits où, avant le phylloxéra, avant les années 1870-1900, il y avait de la vigne, mais ensuite, elle a été abandonnée. Donc, en fait, notre salon, c'est des cépages oubliés, mais aussi des terroirs oubliés. Hein, par exemple, on a un vigneron du nord, tout le nord de la Drôme, entre Haute-Rive et Épinouse, qui a planté ici des... Alors, au lieu de planter de la Syrah, parce que c'est quand même des terroirs qui sont un peu moins qualitatifs que ceux de l'Ermitage ou de la Côte Rôtie. Donc, il ne pouvait pas aller se battre contre eux. Donc, il a décidé de justement planter des cépages d'avant phylloxéra, comme le Villard noir, le Villard blanc, pour avoir une singularité, une typicité aromatique et gustative différente pour bien se différencier des autres.
Et ce vin-là, par exemple, d'Haute-Rive,
oui.
Il va avoir quelle appellation ?
Si nous,
en dehors de faire sa découverte et de venir au salon, parce que j'entends bien qu'un vin, c'est un terroir, c'est une personne qui le fait, qui l'élabore. Il y a certainement beaucoup d'amour pour l'histoire de son pays, de l'agriculture de son pays au sens, paysan du terme. Hein.
Oui.
Mais l'appellation qui va avoir ce vin, si on le cherche, ça va être quoi ?
Côte-du-Rhône ?
20 pays ?
Alors, on ne peut pas faire... Alors, il ne faut pas faire la grimace quand on parle de 20 pays. Il y a des très, très
non,
bons 20
je
pays.
Je fais la grimace plutôt par peur d'être ignorante dans ce que je dis. Voilà.
D'accord. On ne peut pas faire des vins de partout. Il y a une législation, donc il faut demander des autorisations. Et le premier niveau, depuis une dizaine d'années, on a appelé ces vins les vins de France, en fait.
D'accord.
On a tout en haut de l'échelle les appellations d'origine maintenant protégées qu'on appelle. Avant, c'était contrôlé, AOC ou AOP. Donc là, qui sont très, très réglementés. Et ensuite, vous avez en intermédiaire ce qu'on appelait avant les 20 pays, qu'on appelle maintenant les indications géographiques protégées.
D'accord.
Et donc, en général, dans un premier temps, c'est un vin de France et le vigneron peut ensuite demander à l'Institut national des appellations d'origine, d'avoir une classification de ces terroirs. Dans un premier temps, c'est IGP, indication géographique protégée, et pourquoi pas passer dans un deuxième temps en AOC. Et je cite un exemple pour Lionel Brenier, et grâce à l'aide de vignerons très innovateurs et comme Pascal Jamet, qui est à Porte-les-Valences et aussi en Saint-Joseph à Arras, ce Pascal Jamet a énormément travaillé. Vu qu'il était avant à France Agrimaire, qu'il était dans les institutions, pour faire autoriser dans un IGP qu'on a ici dans toute la vallée du Rhône, qui s'appelle l'IGP Colline Rhodanienne,
oui.
Pour faire justement autoriser les vins produits dans la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, également il y a le Vaucluse, des ces nouveaux vignerons avec des cépages qui peuvent être soit de la Syrah, il y a aussi la Serine, qui est une cousine de la Syrah, ou sinon aussi des cépages oubliés. Et dans les IGP collines rhodaniennes, la Syrah est le cépage majeur dans notre coin. Pascal Jamais a fait autoriser la Dureza, qui est en fait la maman de la Syrah. La Syrah, c'est un croisement entre la Dureza et la Mondeuse Blanche de Savoie. Naturellement, avec l'aide du vent, des abeilles et autres, il y a quelques siècles, en fait, ce croisement a eu lieu entre la Mondeuse Blanche et la Dureza et a donné naissance à la Syrah. Et donc, vous voyez, on démarre par une IGP colline rhodanienne. Donc, ces vignerons, en général, ont du vin de France, des IGP collines rhodaniennes, et puis certains ont des AOC.
D'où l'intérêt d'aller à un salon, parce que nous, consommateurs, consommatrices ordinaires, on ne sait pas forcément choisir le vin, etc. Là, on va choisir sur le prix, on a besoin de conseils. D'où l'intérêt d'un caviste ou d'une caviste qui connaît ses vins, qui connaît les vignerons et qui peut nous conseiller en fonction de ce qu'on dit qu'on aime avec nos mots à nous. Parce qu'il y a les mots du vin qui sont impressionnants aussi. Quand on goûte, alors on est toujours un petit peu gêné. On ne sait pas ce qu'il faut dire. Ça sent le caramel, ça sent je ne sais pas quoi. Donc on sent que toi, tu es un passionné. Donc les vigneronnes que vous présentez dans ce salon, j'imagine bien qu'ils ont été sélectionnés, c'est-à-dire que ce sont des produits que vous aimez, que vous considérez de qualité.
Oui,
comment vous avez fait cette sélection ?
Alors en fait, c'est la 8e édition de notre salon. Donc au départ, en fait, on a contacté des vignerons qui proposaient ces cépages oubliés dans leur gamme. On est allé les visiter. On a goûté les vins, on a tissé des liens et qui, au bout de la 8e édition, sont devenus des liens d'amitié. On a le samedi soir une petite soirée vigneronne. Et donc,
chacun... Ah, on peut y aller, nous aussi, ça a l'air bien. Non, c'est entre vous, ah mince.
Vous aurez toute la journée pour profiter. Et d'ailleurs, sur place, on aura un food truck, un roule-taboule, pour pouvoir effectivement se restaurer pour les gens qui vont rester toute la journée. Donc, il y aura ces 14 vignerons qui sont là. Donc, sur tous les stands... Souvent, ce sont des couples, mari et femme, et vous aurez la possibilité de déguster ces vins, d'échanger, d'apprendre un petit peu l'histoire de ces différents cépages. Et bien sûr, pour faire le choix d'achat, la dégustation est primordiale. Et pour les personnes qui seraient intéressées justement à mieux maîtriser cette dégustation, qu'on appelle analyse sensorielle, nous avons organisé... le samedi après-midi et le dimanche après-midi, un petit cours d'initiation à la dégustation que je ferai. Et que je serai accompagné de deux jeunes sommeliers le samedi après-midi pour m'aider à présenter, donc le samedi après-midi, différents vins de cépages muscat. Notamment le muscat de Madame Florence Montferrand, cet écrivain vigneronne, et également quelques autres muscats, soit doux, soit secs.
Alors... justement, Florence Montferrand, parlons-en, elle vient aussi présenter un livre, puisqu'elle a la particularité d'être historienne, d'avoir été universitaire, et puis de cette mise à la vigne, quelque part entre Sète et Montpellier, Mireval, si j'ai bien noté. Est-ce qu'elle va présenter oralement son livre, ou c'est une dédicace ? Est-ce qu'il y a un petit moment où elle explique, elle fait une petite conférence, ou... c'est la rencontre en dédicace, sachant que je précise qu'elle sera l'invitée du matin en direct à la radio. Donc, de toute façon, la conférence, on l'aura en se branchant sur 93.6 ou radioblv.com. Mais si on vient, comment ça se passe avec elle ?
Donc, elle a un stand, hein, comme les autres vignerons et vigneronnes. Et donc, elle va dédicacer toute la journée. Et elle aura donc une présentation sur vos ondes, comme vous l'avez indiqué. Et également, l'après-midi, elle fera une petite présentation à nouveau pour les personnes qui vont participer à un petit atelier d'initiation à la dégustation pour nous présenter ces terroirs, ce cépage muscat, les vieux muscats, toute l'histoire qu'il a amené à...
Oui, c'est sa spécialité, le muscat, voilà. Ce que j'ai compris. Et est-ce qu'il faut s'inscrire si on veut, au préalable, si on veut venir à cet atelier dégustation, cette initiation?
Oui, alors bon, on est quand même un petit salon. Hein. En général, on est à peu près 500 personnes qui viennent entre le samedi et le dimanche. Donc, ce n'est pas si petit que ça.
Pas mal.
Mais donc, dès que vous arrivez sur le salon, venez auprès de nous pour vous inscrire. Il n'y a pas besoin d'appeler au préalable.
Est-ce qu'on peut avoir une toute petite avant-première avec un conseil qui sera donné sur cette dégustation? Comment on déguste?
Oui, comment déguster? Ça faisait aussi partie de mes questions, c'est déguster. Toujours on était sur cette idée, c'est impressionnant. Est-ce que, voilà, on a un verre dans un vin, qu'est-ce qu'on fait en premier? Un verre dans un vin.
Un vin
dans un verre.
Voilà. Donc, on a d'abord l'aspect visuel. Hein, la couleur du vin que l'on va regarder. Pour un vin blanc, s'il a tendance à avoir une couleur très très pâle avec des reflets verts, c'est plutôt un vin jeune. Si le jaune devient de plus en plus doré, c'est signe qu'on a un vin qui est un peu plus vieux, ou alors d'une vendange tardive, parce que la maturation sur les cèpes fait qu'on a aussi une couleur qui évolue dans les raisins. Et ensuite, les arômes.
Attends, avant. Oui. Parce que du coup, on le regarde, pourquoi? On le regarde pour se faire plaisir, parce que c'est beau. Donc, on regarde la beauté de cette couleur avant
tout
la dégustation. Ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir sensoriel. Je le dis aux auditeurs, aux auditrices, parce que on n'a pas besoin forcément de connaître ce que ça signifie. Si on le connaît, comme c'est ton cas, on augmente encore son plaisir. Mais même juste le fait de le regarder quand on aime le vin, c'est une sorte de préparation au plaisir gustatif. Donc, on peut le faire, même si on ne sait pas tout ce que tu viens de dire.
Par contre, c'était juste un petit conseil pour vous aider aussi à choisir les vins. Mmh. De plus en plus de vins sont faits en bouteille blanche. Donc, on voit la couleur quand on va... Si jamais on achète des vins au supermarché, on n'a pas le conseil qui est là présent comme chez les cavistes. On va avec cette couleur pour pouvoir voir si, attention, là, si on est vraiment très très jaune, c'est qu'on a certainement tendance à avoir un vin un peu sucré. Et donc, il faudra prévoir plutôt sur l'apéritif ou le dessert, alors que les vins blancs plus pâles, en général, bon, ils sont secs et donc on va les apprécier sur des poissons ou sur des entrées.
Et alors,
des
entrées. On venait à l'arôme, mais bon, on va être obligé de s'arrêter à un moment donné. Il faudrait qu'on fasse une émission sur la dégustation avec toi. Mais peut-être quand on a le verre à la main, après l'avoir regardé, alors tu allais dire l'arôme.
Kat tourne son verre imaginaire pour les personnes qui ne voient pas.
Je bouge la main, j'y suis.
Oui, donc en fait, les arômes, les molécules aromatiques sont présentes dans le vin. Et effectivement, on tourne le verre pour aérer le vin et faire passer tous ces arômes qui sont volatiles au-dessus du vin et les amener dans notre nez.
Voilà, faire en sorte que les molécules s'envolent vers notre
nonarine
et... pour mieux renifler, en fait, avoir plus d'odeur.
Et mieux sentir,
donc ça, on
chaque
peut
odeur,
faire même...
on va regarder l'intensité, la complexité. Et c'est ça qui va participer au plaisir et nous faire apprécier ou plus ou moins un vin et donc le choisir.
Est-ce que la complexité, ça serait quand on n'arrive pas à dire exactement ce que ça sent? On dit « Oh, c'est la fraise !» Et puis « Oh non, mais il y a du caramel !» Mais non, mais j'y comprends plus rien, c'est ça la complexité?
Tout à fait. Quand un vin est plus monocorde, par exemple les vins primeurs, des Beaujolais nouveaux, on
la
cherche
fameuse
à avoir
banane.
De la banane, voilà, ou de la fraise, des fruits frais, donc c'est plus facile à distinguer.
Mais vous n'avez pas vu le regard de Fatih? Fatih.
Je ne savais pas, je n'ai aucune connaissance du vin.
Et ben voilà, le Beaujolais nouveau sans la banane. Donc quand ça
n'a
plus la banane, c'est ça.
Wow. Et les autres vins primeurs également, c'est un trait surtout au type de vinification en fait, qu'on fait pour faire ce Beaujolais. Donc, et il y aura certains vignerons qui présentent effectivement des vins plutôt jeunes et d'autres qui présentent des vins vieux. Alors, c'est intéressant pour ces vignerons. On a des cépages oubliés, mais on a aussi des fois des bouteilles qui étaient un peu oubliées. Donc, on a des vieux millésimes très intéressants. Et donc, on n'avait pas terminé. Il y a les odeurs, les arômes, mais il y a également l'aspect gustatif. Donc, on va pouvoir juger de l'acidité, de l'astringence. Hein, c'est lié au tanin qu'on a dans les vins rouges, surtout.
Alors, c'est quoi l'astringence? C'est quand ça fait...
Quand ça sèche dans la bouche, parce que en fait, les tanins du vin se lient aux protéines de la salive et font précipiter tout ça dans la bouche. Donc, ça nous assèche la bouche. Et tout l'art du vinificateur, eh ben, c'est de faire un vin, de faire macérer les pellicules des raisins, les grappes, les baies, plus ou moins longtemps. Et si on fait macérer plus longtemps, on aura un petit peu plus de tanin. Et ensuite, l'élevage, surtout s'il est fait en fût de chêne, permettra d'arrondir tout ça et d'avoir un vin qui est tannique, qui a une belle structure en bouche, mais qui est aussi rond et qui ne sera pas trop agressif pour les gencives et pour la salive, et donc on appréciera.
Et est-ce que à ce salon, on peut y aller si on se sent un peu incompétent en matière de vin, mais on peut quand même aller goûter? Et faut-il recracher?
Oui, bien sûr. C'est obligatoire, même si on n'en a pas l'habitude. Donc, on le conseille fortement pour éviter d'avoir derrière des soucis, surtout si on repart en voiture. Donc, il faudra attendre, il y aura possibilité d'attendre. Donc, pour cette dégustation, vous aurez l'occasion, les personnes qui vont venir au salon auront l'occasion de découvrir plein de vins différents, parce qu'on a des vignerons de Drôme et d'Ardèche, mais aussi donc du Roussillon, vous avez cité donc le Clos de Miège qui vient de près de Mirval, mais on a également d'autres vignerons qui viennent de l'Hérault, et on en a deux qui viennent du sud-ouest. Monsieur Issali, très connu sur Gaillac et qui est au notre salon depuis 8 ans, et également des nouveaux vignerons qui viennent du pays Agenais.
Donc on fait plein de découvertes. Est-ce qu'on peut peut-être citer les noms des vignerons de Drôme et d'Ardèche, s'il y en a?
Oui, donc il y a Pascal Jamet du vignoble de la Tour d'Arras, hein, en Saint-Joseph, et puis il a aussi des vignes sur Porte-les-Valences. On a également le domaine Lionel Brenier qui vient d'Épinouse, qu'on a cité tout à l'heure, hein, donc de la Drôme des Collines. Et on a également le domaine de Bagnols qui vient du sud Ardèche avec le cépage, vieux cépage ardéchois, le Chatu en rouge. Il y a également des voisins, puisqu'il y a la Savoie qui vient, le caveau de Chautagne, avec ses vins blancs d'Altesse, Jacquère, différents cépages.
Au bord du lac
aussi,
du Bourget.
Oubliés, oui, tout à fait. Voilà pour ceux qui viennent. Alors, également, il y a une association qui vient du sud Ardèche, un monsieur qui fait des vins de France depuis très très longtemps avec du Jacquet, un vieux cépage ardéchois.
L'entrée est seulement à 3 euros, le verre dégustation est offert.
Tout
on n'est pas
fait.
Obligé de venir avec son verre et puis on repart avec un souvenir. Et je me demandais si on veut acheter des vins qu'on a aimés, puisque j'imagine que ce ne sont pas des vins qui sont commercialisés forcément la porte à côté,
régionalement,
chez le caviste,
oui,
etc. Est-ce qu'on pourra payer en carte bleue ou faut-il venir avec son chéquier des espèces, ou est-ce que peut-être ça dépend des... Vignerons, vignerons.
Oui, alors la plupart des vignerons, c'est avec la carte bleue, mais vaut mieux quand même amener espèces et chèques
pour
des petits. Comme, alors moi, personnellement, j'ai un stand.
Ah
donc
bon,
je suis l'œnologue de service où je présente des cépages oubliés. Il y a notamment le père du chardonnay, le gouet blanc. Donc il y a aussi un vieux gamay du Val-de-Loire. Mais j'ai également, je présente aussi une autre stratégie actuelle, plutôt des grandes appellations, qui sont les croisements entre les cépages connus comme le chardonnay et autres, et des cépages résistants pour donner un nouveau matériel végétal résistant aux maladies, un peu comme les cépages oubliés. Et puis, je présenterai également des vins sans sulfite.
Super.
Donc, vous avez parlé aussi de 3 euros à l'entrée. Et donc, je peux peut-être vous rappeler les horaires d'ouverture.
Tout à fait, bien sûr.
Le samedi de 10h à 19h, avec, comme vous l'avez dit, toute l'animation de Radio BLV jusqu'à 15h.
Et les ateliers.
Voilà, et les ateliers.
À quelle heure les ateliers de...
15h30, le samedi et le dimanche. Et on peut également citer, donc à 16h45 le samedi et à 11h30 le dimanche, une dégustation de notre propre vin, le vin de l'association, parce qu'on a planté il y a 6 ans des cépages oubliés autour de l'église de Chabeuil, sur les jardins solidaires, également dans le village. Des pieds de vigne, de vieux cépages, et depuis 2021, on a fait une petite vendange et on a sorti un vin rosé, tranquille, hein, un vin rosé classique.
Tranquille, et puis, un vin rosé tranquille.
Qui n'est pas effervescent.
Tranquille,
ça veut dire en termes techniques.
D'accord.
Qui n'est pas effervescent.
On
a également une petite cuvée expérimentale effervescente. Donc, vous pourrez déguster à cette occasion notre petit vin.
Donc, on peut dire pour n'importe quel vin qui n'est pas effervescent, un vin tranquille.
Tout à fait.
Oh, j'adore.
C'est classe.
Donc, je ne vous demande pas du coup quel est votre vin préféré, puisque...
Non.
Vous en présentez plusieurs vous-même, j'imagine.
Oui,
que
oui,
ce
oui.
Sont des
non,
vins
ils sont...
que vous avez sélectionnés, que vous aimez beaucoup. Et j'ai vu sur votre site qu'en juin de cette année, vous aviez organisé là spécifiquement un marché au vin. Vous allez refaire ça l'année prochaine?
Alors,
ou...
non, on
non.
va.
D'accord. Vous vous recentrez sur le salon.
Oui, tout à fait. Même si c'était intéressant, c'était un petit peu à l'époque post-Covid. Donc, on avait voulu, comme on n'avait pas fait de salon en 2020, on a voulu en 2021 faire ce marché.
Remplacé par le marché.
Voilà, complété par le marché pour toujours tenir en haleine les visiteurs et les amateurs de vin, les œnophiles. Et donc, on fera maintenant tous les années en novembre notre salon. Et donc, on n'a pas précisé, à Chabeuil, il se passe au centre culturel, qui est à côté de la piscine et des tennis de Chabeuil, avec un grand parking. Donc, c'est très, très pratique et on pourra même aider, bien sûr, les acheteurs à ramener les cartons dans leur voiture.
Donc, rendez-vous ce week-end pour les œnophiles amateurs ou confirmés au centre culturel de Chabeuil pour le salon des vins et des cépages oubliés de 10h à 19h samedi. Et attention, dimanche, ça ferme un peu plus tôt, 18h.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça pour pouvoir encore mieux déguster les vins. Et rendez-vous samedi ou dimanche, hein, j'y serai.
Merci à vous. À ce week-end à Chabeuil.
Et si après ces dégustations de vin, vous avez envie de consommer autrement, différemment, dans plus de coopération, eh bien vous pouvez passer de Chabeuil à Valence pour vous rapprocher du Cause Toujours, qui organise dimanche toute une journée autour de ce sujet de consommer autrement. Ça commence le matin à 8h et ça se termine à 17h. Et il y a donc de nombreux ateliers, de nombreuses propositions, notamment un vide-grenier des habitants. Donc vous pourrez aller chercher vos petits cadeaux de fin d'année ou vous faire à vous-même d'ailleurs un petit cadeau. Il y aura une zone de gratuité où là vous pouvez vous-même déposer des objets, des vêtements, des jouets ou à l'inverse repartir avec ce qui vous plaît. Tout est possible et tout est gratuit, ça fait plaisir. Il y a aussi la proposition de troquer des plantes pour végétaliser Valence. Donc vous pouvez venir amener des boutures, récupérer des boutures, voilà, faire des échanges de plantes. Il y a la collecte des boîtes de Noël qui vous permet de proposer pour Noël dans une boîte quelque chose de chaud, quelque chose de bon à manger, un produit d'hygiène, un mot doux et un loisir. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, vous pourrez faire ça sur place. Et puis, il y a des ateliers et stands, notamment à 10h et 14h, un atelier diagnostic avec le Répare Café, où vous pouvez apprendre à diagnostiquer votre appareil en panne avec Fabrico. Et ça, ça fait plaisir. On va pouvoir réparer nos appareils en panne. À 14h30 et 16h30, cette fois-ci, c'est un atelier grand jeu en bois pour petits et grands avec la MPT du centre-ville. Et puis, pour terminer, à 15h, atelier produits ménagers à faire maison, si vous voulez apprendre à faire tout ça vous-même. C'est sur inscription au café en partenariat avec la boutique d'à côté de Vrac, Grammes et Kilogrammes.
Et notre dimanche est donc complet. Merci beaucoup.
Peut-être pas. À l'occasion des visites du patrimoine pays d'art et d'histoire, le samedi 12 novembre à 14h30 a lieu la visite guidée artisanat et industrie à Romans. Donc vous avez aussi beaucoup de choses à Romans ce week-end. Ce circuit permet d'évoquer les diverses activités de la capitale de la chaussure et de comprendre comment ce passé très actif a structuré la ville. Le rendez-vous a lieu sur la place de la Presle, au pied de l'escalier Josapha à Romans. Ce dimanche aussi...
Ah mince, ça en rajoute.
À 14h30, à Valence aussi, a lieu Valence au 19e siècle, qui parle de la période de développement démographique et urbain sans précédent, qui fera de notre ville, Valence, la ville moderne que nous connaissons, plutôt. Pas notre ville, parce que du coup, nous, c'est Bourg-lès-Valence, mais la ville d'à côté. Rendez-vous à la Maison des Têtes, du coup, à Valence. C'est sur réservation, donc n'hésitez pas à appeler au 04 75 79 20 86. Je vais répéter encore, du coup. 04 75 79 20 86. Et ou sinon, vous pouvez vous rendre aussi sur l'agenda du site valenceromansaglo.fr.
Mais on peut faire tout ça dimanche, hein, c'est tout à fait compatible. Le matin, paf, au Cause Toujours. Entre midi et deux, on fonce à Chabeuil, on mange au food truck, on déguste quelques vins faits avec des cépages oubliés. Et ensuite, une petite visite et boum, la sieste.
Et la colline de Montoison.
Mais non. Et voilà, il y a la colline de Montoison après la sieste. Donc, c'est toujours ce dimanche, une immersion en forêt proposée par l'association donc, La Colline de Montoison. C'est une association qui se définit sur permaculturel. Je vous laisserai aller voir sur le site leur proposition, qui est une journée thématique sur l'avenir des forêts. À l'occasion de la sortie du numéro 15 de l'excellente revue Z, vous pourrez, après la promenade en forêt, participer à des débats, des ateliers en sous-groupe, même fabriquer du papier. Le soir, il y a une exposition « Regard d'artiste sur les forêts ». La thématique, c'est comment renouveler notre rapport à la forêt, développer des usages communs et créer de nouveaux imaginaires. C'est une journée complète qui a l'air passionnante. Il va falloir choisir. La participation est à prix libre. Plus d'infos sur leur site, lacolline26.org.
Et puis, ce n'est pas encore fini, parce que nous avons la bourse aux jouets d'Alexion qui est encore organisée par l'App Alexion, association de parents d'élèves, qui fait son grand retour depuis dimanche, enfin, qui fait son grand retour dimanche à la salle polyvalente d'Alexion. Au programme, de 8h à 11h est prévu les dépôts des jouets, de 14h à 16h30 les ventes et de 17h à 18h30 le retrait des invendus et des paiements. Les articles admis sont donc des jouets et des jeux, des articles de sport enfant et des articles de périculture hors textile bien sûr, et en état de fonctionnement complet, propre et non détérioré. C'est très important, donc n'oubliez pas ça. C'est tout pour moi. Je repasse la parole à Karina.
Et bah pour conclure, parce qu'il est 13h, merci pour votre écoute.
Au revoir tout le monde.
On en oublie pas. Bonne journée à tous.